Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour et bienvenue sur Campus FM, c'est Lou et j'ai le plaisir de vous emmener avec moi dans un nouvel épisode de L'étudiant attendu, l'émission où l'on rencontre et découvre les acteurs, les projets et les idées qui rythment les quotidiens étudiantins. Je ne vous apprends rien, mais une université n'est pas qu'un lieu studieux. L'université, c'est aussi un terrain d'engagement et de lutte, où les étudiants et étudiantes n'attendent pas le début de leur vie professionnelle pour mettre leurs compétences, organisation, réflexivité ou connaissance du système par exemple, au service des autres. Vous l'aurez compris, après avoir reçu des membres de l'association Jules et Julie, nous voilà donc de retour avec des associations étudiantes, avec cette fois un nouveau terrain d'engagement, celui de l'aide aux mineurs isolés. Avec le durcissement des conditions d'accueil dans un pays qui se revendique pourtant comme le berceau des droits humains, ces jeunes gens arrivés en France seuls au terme d'un parcours parfois terrible doivent faire face au racisme, à l'isolement et à un dédale administratif qui semble ne jamais prendre fin. Comment donc aider à son échelle des personnes à qui les pouvoirs publics et la société refusent presque tout? Une des solutions possibles, c'est de briser l'isolement et de tisser du lien en donnant son temps et sa présence. On peut essayer d'apporter un peu de chaleur humaine à l'écart d'un cadre institutionnel qui aliène plus qu'il n'intègre. Et justement, parmi les associations étudiantes qui font vivre la solidarité sur les campus toulousains, on trouve l'association étudiante Pêle-Mêle, qui fait de l'accueil et de l'assistance aux mineurs non accompagnés sa mission. Grâce à l'implication de ses membres, l'association propose des activités et ateliers de bien-être, comme du sport, de la musique et des sorties dans divers lieux de la ville. J'ai donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir Aline et Enora, respectivement présidente et vice-présidente de l'association étudiante Pêle-Mêle. Donc, bonjour et bienvenue à toutes les deux. Merci d'être ici.
Merci à toi de nous accueillir.
Vous êtes donc toutes les deux en études de santé, comme la plupart des membres de votre association, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos parcours respectifs?
Alors, on est toutes les deux en troisième année de médecine. Il y a énormément de membres qui sont dans les filières de médecine, santé, pharmacie, kiné et dentaire et maïeutique. On a pour but de s'ouvrir à l'échelle de toutes les universités, donc c'est absolument pas un critère pour rejoindre notre association.
Oui, exactement. Donc, moi, j'ai rejoint l'association l'année dernière. C'est vrai que c'est à partir de la deuxième année qu'on commence à avoir plus de temps pour s'engager justement dans des associations, parce que la première année de médecine, c'est un petit peu restreint. On n'a pas trop le temps et tout ça. Donc, effectivement, à partir de la deuxième année, c'est super chouette. On peut s'ouvrir à plein de projets. Et donc, c'est là que Aline également a rejoint l'association. Et c'est à partir de cette année que, pour ma part, je suis rentrée dans le bureau restreint, donc en tant que vice-présidente générale. Aline était déjà l'an dernier présente au sein de l'organisation.
L'année dernière, j'étais trésorière et en fin d'année, j'ai rejoint le bureau en tant que présidente.
Et donc, d'où est venue cette envie de vous engager? Est-ce que vos parcours en études de santé ont quelque chose à voir avec cet engagement?
Alors moi, j'ai toujours, à partir du moment où je me suis dit que j'avais le temps pour m'engager, ça a toujours été une envie. Et après, je pense que quand on fait des études de santé, on a aussi l'envie d'aider les autres. Et cette association, c'était vraiment le but premier, c'est d'aider du coup justement les mineurs non accompagnés en grande partie. Et donc c'était le moyen de mettre à profit justement cette envie d'aider les autres, de leur apporter un peu de joie, un peu de bonheur, et finalement ce qu'on recherche aussi avec les études de santé, en aidant du coup sur le plan de la santé. Et donc là, c'était plus une aide dans le bien-être, plutôt apporter un peu de joie et de réconfort à ces jeunes.
Moi, c'est un peu pareil. J'ai toujours été assez engagée dans les associations. J'ai fait le Parlement européen des jeunes au lycée. J'avais commencé à faire des maraudes l'année dernière et j'ai rencontré du coup l'ancien président, d'autres membres. Ils m'ont dit « mais rejoins Pêle-Mêle, c'est super chouette ». Et j'ai fait 2-3 sorties comme Enora et après je suis partie pour rejoindre l'association. Parce que c'était une association assez vivante et qui aidait à mettre de la lumière là où parfois c'est un peu sombre.
Alors justement, moi il me semblait peut-être à tort que les études de santé étaient hyper chronophages. J'imagine que c'est quand même quelque chose qui est très prenant. Comment est-ce que vous parvenez à vous libérer un peu de temps et d'espace d'ailleurs psychologique pour faire tout ça?
Alors effectivement, donc il y a la première année où vraiment il n'y a pas trop le temps de faire des activités en dehors. Et la deuxième et troisième année, c'est un peu des années où on respire et où on profite de la vie étudiante, j'ai envie de dire, un peu comme on l'entend de l'extérieur, donc avec peut-être un peu plus de sorties. Il reste toujours beaucoup de cours à travailler, des partiels qui sont parfois un petit peu compliqués. Mais c'est aussi important de se libérer du temps, de prendre du temps, parce que ce temps-là, on le prend pour les autres, mais on le prend aussi pour soi, pour s'aérer l'esprit, pour penser à autre chose et pour faire partager autour de nous tout l'environnement de la santé et aussi de la vie étudiante, de la vie associative et tout ça.
Est-ce que maintenant on va en venir à l'association un peu elle-même, est-ce que vous pourriez nous présenter les actions précises de votre association, quel est son but, sa mission ?
Alors Pêle-mêle, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans par 3 étudiantes en médecine. À l'époque, elle a été créée parce qu'elles souhaitaient rajouter du contact humain là où parfois il n'y en avait pas. Elles se sont demandé comment aider les mineurs isolés quand elles ont appris leur existence à Toulouse. Et c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, c'est un peu dur de les aider d'un point de vue financier, de les supporter alimentairement, etc. Et du coup, elles ont eu l'idée de commencer à créer des petites missions de loisirs. Après ça, elles ont aussi développé un partenariat avec Médecins du Monde, qu'on a repris l'année dernière et qu'on est en train de poursuivre cette année. Donc, pêle-mêle à plusieurs branches d'action. Il y a une branche d'action de loisirs. Donc, on va avoir l'activité comme un poisson dans l'eau, qui consiste en des cours slash sorties natation. Donc c'est sous forme de loisirs, de jeux ludiques, où tout le monde s'amuse. Il y en a une fois par mois avec deux vice-présidentes spécialisées de la mission Poisson dans l'eau. Il y a également une mission Reine des Neiges qui consiste à amener une fois par mois, pareil, les jeunes à la patinoire. Il y a aussi un pôle culture qui consiste à faire des petites sorties de type cinéma, film. Il y a également un ancien mineur isolé qui a écrit un livre. Et du coup, la prochaine sortie consistera à aller voir la publication du livre lors d'un petit atelier café-discussion. Et enfin, il y a tout un pôle événementiel où là, le but, ça va être d'organiser Halloween qu'on fête dans 2 semaines, d'organiser un repas pour Noël, fin d'année, début d'année, vers janvier, d'organiser une sortie à la neige où l'année dernière, on était à Aix-les-Thermes et on a passé une super après-midi, enfin une super journée. Une sortie plage où l'année dernière c'était au lac de Saint-Ferréol et un grand goûter de début de rentrée où le but c'est juste de discuter tous ensemble et que les bénévoles puissent rencontrer les mineurs isolés. Et enfin il y a le pôle Médecins du Monde et le pôle Médecins du Monde, son but ça va être en partenariat avec, l'année dernière c'était le CASO qui est un centre d'aide sociale et sanitaire qui se situe vers Compans si je ne me trompe pas. Et le but, c'est de faire des petites activités de sensibilisation, de prévention. Et là, le champ d'action est un peu plus large et concerne surtout les précaires de Toulouse plus que les mineurs isolés.
Donc, votre association se concentre principalement sur ces fameux mineurs isolés. C'est un terme qui a une définition légale, mais on va plutôt parler de votre association parce qu'on sait qu'il y a des problèmes d'attribution de ce statut très gros, avec beaucoup d'arbitraires. Donc, qui sont ces mineurs isolés que vous accompagnez ? Comment est-ce qu'on définit un mineur isolé ?
Alors, un mineur isolé, donc souvent, ils ont immigré depuis l'Afrique, ils ont un parcours migratoire assez complexe. La plupart sont arrivés, beaucoup viennent d'Italie, d'ailleurs, et ont essayé de rechercher un statut. En fait, le but pour eux d'obtenir ce statut et un statut en général, c'est d'être reconnu par l'État et d'avoir accès à des études, à un futur emploi et à une identité française par la suite. Parce que le problème là, c'est que du coup, pour l'instant, ils ne peuvent pas être scolarisés, ils ne peuvent pas avoir accès à une formation professionnalisante. Et donc, à terme, s'ils n'ont pas ce statut, ils ne resteront pas à Toulouse. Enfin, ils nous expriment clairement que si d'ici la fin de l'année, grosso modo, il n'y a pas de lumière au bout du chemin, on va dire, ils partiront. Comme ils sont partis d'Italie, comme ils n'avaient pas trouvé et tout ça. Et donc, le but, ici à Toulouse, c'est donc de rechercher ce statut de mineur non accompagné qui leur permettrait donc déjà d'avoir des aides donc, au niveau scolarité et également au niveau logement, de pouvoir être accueillis dans des foyers reconnus par l'État et par le département. Et donc de leur éviter cette situation de précarité où pour l'instant ils logent dans un squat tous ensemble à Toulouse.
Ils vous parlent un peu, ces jeunes, des difficultés administratives qu'ils rencontrent
C'est des situations très compliquées parce qu'ils font beaucoup de demandes. Ils sont aidés par des associations dont Utopia 56 à Toulouse pour essayer de mener à bien les statuts. au final, ça marche pas toujours. Il y a également des mineurs isolés filles qui on a l'impression, sont en tout cas mieux protégées et sont plus rapidement prises en charge par la protection de l'enfance. Mais c'est vrai que pour les mineurs isolés garçons, c'est un peu plus compliqué. C'est assez lourd à vivre parce qu'ils ont abandonné leur famille, leurs amis. Il y a quelques temps, on a fait une sortie et il y en a un qui était extrêmement mal parce qu'il avait appris la mort de son meilleur ami la veille en Italie dans un chantier naval. Ils peuvent pas travailler, ils ont pas de logement, enfin ils ont pas de logement officiel, ils sont tous ensemble dans un squat, ils ont pas d'aide sociale, ils ont personne pour les protéger concrètement, alors qu'on parle de jeunes de moins de 18 ans qui sont censés être protégés.
Qui sont légalement censés être protégés. Et donc certains ont du mal à faire reconnaître leur âge, si j'ai bien compris.
Exactement. En fait, à partir du moment où on les reconnaît comme des mineurs, enfin que la juridiction les reconnaît comme des mineurs, dans ce cas-là, ils sont pris en charge par l'État. Mais tant qu'ils ne sont pas reconnus comme mineurs, ils ne peuvent pas être pris en charge par l'État. Et c'est cette reconnaissance de minorité qui est compliquée à obtenir pour eux et qui leur donne après ça une protection.
Que font ces jeunes isolés quand ils ne sont pas avec vous? Où dorment-ils, sans donner forcément l'adresse exacte? Mais à quoi ressemble leur vie de tous les jours?
Ouais, à l'heure actuelle, ils sont dans un grand squat, donc c'est un bâtiment qui est plutôt en bon état quand même, pas trop délabré et tout ça. Donc ils sont régulièrement menacés d'expulsion, régulièrement ils changent de squat et tout ça. Mais à l'heure actuelle, ça fait à peu près un an qu'ils sont là-bas, un petit peu plus même maintenant. Et donc, ils ont des grands dortoirs, ils ont des grands espaces communs pour faire à manger. Souvent, ils arrivent à faire tous ensemble à manger et tout ça. Il y a une autre association, le Tech 31, qui leur permet de suivre des cours. Ils ont des salles de cours aménagées et tout ça. On essaie de leur amener des manuels scolaires, il y a plein de dons de d'autres associations qui leur permettent d'avoir le matériel et aussi le personnel pour enseigner et finalement qu'ils aient un petit peu d'éducation. Il y en a, grâce au Tech 31, il y en a quelques-uns qui peuvent suivre des formations professionnalisantes, notamment en électricité par exemple, en aide-soignant aussi, on en connaît qui font ça. Donc il y en a certains qui ont réussi quand même à avoir un petit peu accès à ces formations. Donc souvent ils ont la matinée, voire même la journée de cours. Et après, le reste du temps, ils restent quand même beaucoup dans ce logement. Nous, on essaie d'organiser donc des sorties à peu près 2, 3, 4 fois par mois et tout ça. Et il y a aussi, par exemple, Utopia 56 est présent tous les mardis soir au bâtiment. Et il leur propose aussi donc toute une partie administrative et tout ça, mais aussi un petit peu un temps pour décompresser avec des petites activités, des activités manuelles, des projections de films de temps en temps. Et voilà.
Et pourquoi c'est important de leur proposer ce genre d'activité sociale?
Moi, je trouve ça hyper important parce que c'est vrai que c'est des jeunes donc déjà qui restent énormément entre eux et qui ne sont pas trop ouverts aux autres, en fait, aux autres, que ce soit aux autres gens de leur âge, aux autres étudiants comme nous, mais aussi à tous les Français en général. Et c'est vrai qu'au départ, moi, les premières sorties que j'ai faites avec eux, ils sont un peu renfermés sur eux-mêmes, ils n'osent pas trop aller vers nous et on voit que je pense qu'ils sont méfiants aussi et c'est normal parce que peut-être qu'ils nous associent au système français en général et on sait que c'est compliqué pour eux vis-à-vis de ce système français. Et donc, c'est aussi important de leur montrer un peu l'autre côté, j'ai envie de dire, du décor, que, ok, la partie administrative, c'est compliqué, mais aussi qu'il y a plein de choses chouettes ici qui peuvent les divertir. Donc nous, on est plutôt sur le côté divertissement. Mais c'est vrai que c'est important aussi de les sortir la tête de l'eau et de leur faire voir du paysage, quoi.
Je trouve ça vraiment important, en tant que Toulousaine et heureuse de l'être, de leur montrer qu'il n'y a pas que ça, comme disait Nora, et de les accueillir là où ils sont que face à des refus et de les intégrer, tout simplement, parce qu'ils... ils sont là pour rester, ils sont bien.
Et comment justement ces jeunes mineurs isolés, donc les bénéficiaires de votre association, arrivent à vous? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux ou est-ce que c'est eux qui viennent vers vous?
Alors il y a, quand l'association a été créée, un groupe WhatsApp a été créé sur lequel les anciens bénévoles, les anciens membres ont ajouté des numéros de mineurs isolés. Et en fait, chaque année, quand il y en a des nouveaux qui arrivent, on rajoute les numéros de mineurs isolés. Nous, on se rend toujours à leur bâtiment pour partir pour les sorties. Et du coup, pareil, on discute un peu avec eux dans les couloirs, etc. On leur propose de venir à la sortie. S'ils peuvent pas, on rajoute leur numéro. Et ça fait qu'il y a de plus en plus de mineurs isolés qui connaissent pêle-mêle.
D'où viennent vos financements?
Alors, nos financements, petite échelle, on va dire, on organise des ventes alimentaires, donc c'est essentiellement des ventes de crêpes au sein de la faculté. Donc par exemple, la semaine dernière, on était à la BU Sciences, devant la BU Sciences, et on organisait donc ces ventes alimentaires, donc qui nous permettent quand même de récolter un petit peu des fonds. Sachant qu'on n'est pas une association qui a besoin d'énormément de fonds, parce que nos sorties, on a de la chance avec Toulouse Métropole d'avoir des accès à la piscine vraiment pas très très chers. Et à la patinoire également. Donc on n'a pas besoin de fonds non plus énormes, mais c'est surtout pour nos grosses sorties, comme l'a dit Aline, par exemple, quand on va à la neige, à Axe-les-Thermes et tout ça, où c'est un budget un petit peu plus conséquent. Après, on marche aussi avec les dons. Comme on est une association, on a la possibilité d'être défiscalisé. Lors des donations, on peut défiscaliser les donateurs à hauteur de 66%. Donc c'est aussi une part importante. Donc il y a quelques... parents de bénévoles qui font des dons, de bénévoles eux-mêmes même. Et on a un ancien bénévole qui nous... Enfin, on a eu la chance d'avoir un don assez conséquent l'année dernière.
Oui, d'une entreprise qui a fait un don qui nous permet encore de vivre aujourd'hui. Donc on le remercie. Après, il y a tous les dons des adhérents quand ils prennent leur adhésion. Et il y a également... Du coup, comme Zenora, il y a le fait qu'on est reconnu d'utilité publique, donc défiscalisable à 66%.
Et est-ce que vous êtes subventionné ?
Pas encore, mais les demandes de subvention seront en cours au prochain semestre.
Alors on va continuer de parler de tout ça avec vous, Aline et Nora, mais juste après une petite pause musicale. À tout de suite sur Campus FM. C'était Cobra, excusez-moi, c'est le matin, avec des lieux associatifs pour les jeunes, un morceau qui a le mérite d'être clair. Donc vous êtes toujours dans l'étudiant attendu sur Campus FM, nous voilà de retour avec Enora et Aline de l'association étudiante Pêle-Mêle qui vient en aide aux mineurs isolés. Alors Enora et Aline, on en a parlé juste avant pendant la pause, mais j'ai cru comprendre que la plupart de vos bénéficiaires sont des garçons. Est-ce que vous avez aussi de temps en temps des filles et comment est-ce que vous expliquez cette répartition-là ?
Alors, la plupart des bénéficiaires sont des garçons parce que les garçons sont les moins pris en charge par la préfecture. On a des filles qui sont venues aux activités plage, piscine et neige, mais elles ont quand même tendance, et même aux sorties quand on fait des repas, etc. Mais c'est vrai qu'elles, elles sont beaucoup plus prises en charge par la préfecture. Il y en a énormément qui ont obtenu le statut de mineur isolé. Elles sont beaucoup à faire déjà des formations professionnalisantes. Et du coup, ça fait qu'elles ont une vie très occupée. Elles ont moins besoin de pêle-mêle pour les sortir de leur bulle.
Et vous aviez dit, oui, qu'elles étaient plus rapidement prises en charge par les administrations.
En fait, comme, je pense que comme les filles sont quand même plus vulnérables que les garçons dans la vie... j'ai envie de dire dans la vie quotidienne, en fait. C'est vrai qu'elles ont tendance à être, pour le coup, vraiment pris en charge. C'est vrai que dans le squat où on va, enfin le bâtiment où on va chercher les jeunes pour participer aux sorties, il n'y a aucune fille, c'est vraiment que des hommes. Et donc effectivement, les filles sont dans des foyers, sont beaucoup plus pris en charge. Quand on discute avec elles lors des sorties, bah, par exemple les grosses sorties neige, plage où elles nous accompagnent, vraiment on voit qu'elles ont vraiment accès à la scolarité, à l'éducation, qu'elles sont placées dans des foyers et ça a l'air vraiment plus facile pour elles quand même. Et après, je pense qu'il y a aussi une part où c'est quand même plus les hommes qui ont tendance à immigrer. Enfin, quand on discute avec les jeunes du bâtiment, ils sont souvent venus soit avec leurs frères, soit tout seuls, sans parents, sans leurs sœurs. Et en général, justement, ces membres de la famille sont restés au pays. Et bah, c'est vrai que c'est une réalité, c'est plutôt les hommes qui ont tendance à quitter leur pays.
La mairie de Toulouse, et d'ailleurs le pays en général, mais on peut rester sur la mairie de Toulouse, semble avoir une gestion de plus en plus agressive des mineurs isolés en multipliant les expulsions et les coups de pression, on va dire. Est-ce que les jeunes que vous accompagnez vous en parlent? Est-ce qu'ils y font face?
Mais les jeunes ont été menacés d'expulsion de l'endroit où ils sont depuis un an cet été. Ils ont eu un procès. L'avantage du procès, c'est qu'ils ont pu voir qu'ils étaient très entourés, entre guillemets, l'avantage bien sûr. Et le résultat du procès est attendu le 28 août, mais il a été repoussé. Et donc, pour l'instant, ils ne sont pas réexpulsés. Ils ont quand même très peur de tout ce qui va être force, armée, militaire. Les premières sorties piscine, c'était assez compliqué l'année dernière parce qu'il y avait un jeune qui avait été arrêté par la police, retenu en centre de détention administrative. Où là, il y a une association qui s'appelle le Cercle des Voisins, qui font un travail qui est exceptionnel et qui, en fait, vont voir les jeunes, s'occupent de leur trouver des avocats, des aides juridiques et qui font tout pour que les jeunes puissent retourner au bâtiment. Et voilà. Et du coup, bah, les premières sorties piscine, c'était un peu compliqué parce qu'ils nous demandaient s'ils n'allaient pas avoir un contrôle de papier à la piscine. Et on les a rassurés, on leur a dit que, bah, y avait un risque, bien sûr, mais qu'il était quand même très minime. Et au fur et à mesure, ça a été de mieux en mieux au fur et à mesure des sorties. Mais ils font clairement face à beaucoup de contrôles.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose,
Enora? Non, je pense qu'Aline a tout dit. C'est vrai que... on sent, nous, quand on organise des sorties, que dès qu'il y a un petit peu un problème administratif, eux, de leur côté, bah, ils sont beaucoup moins aptes, on va dire, à se détendre, à pratiquer des loisirs et tout ça. Enfin, je me souviens d'une fois où on avait organisé un super repas partage et tout ça, et malheureusement, bah, le jour même, il y avait eu un jeune qui avait été placé en détention, donc, comme disait Aline, et tous les jeunes nous disaient « Ah non, on n'a pas trop la tête à ça, on n'est pas trop ça ». Et pareil, quand ils sont menacés d'expulsion, bah, souvent ils n'ont pas trop la tête justement à se divertir comme ce qu'on propose. Et c'est vrai que ça se ressent un peu, et je pense pour eux ça prend quand même une place énorme parce que c'est quand même toute leur vie concrètement dont on parle. Donc c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui les fait beaucoup stresser et dont ils nous font part aussi...
J'ai l'impression que vous êtes en contact avec beaucoup d'autres associations parce que vous ne pouvez pas couvrir tous leurs besoins. Est-ce que vous avez quelques associations à nommer avec lesquelles vous êtes souvent en contact?
Il y a en fait ces associations qu'on va venir croiser quand on va au bâtiment, qu'on vient croiser lors des procès. Du coup, il y a le Tech 31, Tous en classe 31, qui font un gros travail d'aide aux devoirs, de scolarisation, qui leur font vraiment des cours tous les jours au bâtiment. Mais ils ont des vrais cours de 9h à 17h. Et du coup, il y a des sorties où ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont en cours. Donc c'est quand même énorme de couvrir la scolarité d'autant de jeunes qui s'occupent de retrouver des formations professionnalisantes. Il y a le collectif Autonomie, qui est un collectif monté par les mineurs isolés eux-mêmes et aidé, il me semble, par quelques personnes, qui a pour but de faire entendre leurs revendications. Il y a le Utopia 56 qui fait un gros travail en matière d'aide alimentaire, aide au logement, etc. Et du coup, il y a le Cercle des Voisins qui s'occupe principalement de les aider quand il y a des problèmes administratifs. Et
ça, c'est ceux qu'on connaît et qu'on côtoie, mais on sait qu'il y en a aussi beaucoup d'autres qui gravitent autour. Mais c'est vrai que la communication inter-association est parfois un petit peu compliqué. En fait, la communication au sein du bâtiment en elle-même est très compliquée parce que on a un peu un décalage sur la façon d'organiser les choses. Des fois, il y a plein de jeunes qui nous disent oui, on sera là, puis au final, ça passe un petit peu à côté parce qu'on comprend, ils ont plein de choses à gérer à côté. Et pareil pour les autres associations qu'il y a autour. C'est vrai qu'on les croise souvent quand on est au bâtiment, mais des fois, on a des liens un petit peu compliqués. On sait qu'ils organisent des choses, mais on ne sait pas exactement quand. Du coup, pour nous-mêmes s'organiser, c'est vrai que... C'est quand même quelque chose qu'on essaie d'améliorer. Cette année, on est beaucoup en contact avec Utopia 56 pour un peu coordonner nos sorties parce qu'ils ont un pôle culturel qui est assez développé. Et les jeunes, cet été, alors nous, comme on est des étudiants, l'été, c'est vrai qu'on n'avait pas fait de sortie parce que on était la plupart pas sur Toulouse, en vacances. Et les jeunes aussi étaient, enfin les mineurs étaient en vacances aussi. Et ils étaient très en demande des sorties de pêle-mêle. Ils demandaient justement aux autres associations quand est-ce que pêle-mêle revient et tout ça. Donc il y a des associations qui nous ont contactés comme ça en disant comme ça vous organisez des sorties, et même les autres associations ont découvert en fait notre association de par la demande des jeunes, donc c'est vrai que c'est chouette et on essaie donc d'être de plus en plus en lien et en contact pour aussi c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe autour d'autres associations.
Le climat politique actuel est plutôt, on va le dire comme ça, délétère pour les jeunes isolés et les personnes racisées, même de manière générêle. Est-ce que l'association pêle-mêle, c'est-à-dire des membres individuels ou des bénéficiaires, ont déjà été la cible d'attaques extérieures? Pas forcément physiques, évidemment. Hein.
À ma connaissance, les membres de l'association pêle-mêle n'ont jamais été pris à partie. Les jeunes subissent forcément le racisme, les situations compliquées.
Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu choquée, on va dire, la première fois que j'avais fait une sortie patinoire dans les vestiaires. On était en train de se changer, donc j'étais entourée de mineurs isolés du bâtiment et tout ça. Et il y en a un qui a reçu une peau de banane sur la tête. Et en fait, vraiment, sur le moment, j'ai été choquée. Et j'ai même pas pu réagir, en fait. Et en fait, lui, il a tellement pris ça à la légère, enfin comme si c'était normal et que c'était vraiment ce qu'il vivait tous les jours, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit c'est horrible qu'on se le dise, c'est vraiment horrible. Et donc moi j'aurais voulu réagir, j'aurais voulu vraiment et j'étais tellement choquée de la situation et que surtout pour lui ça paraissait tellement normal, enfin ça m'a vraiment outrée.
Pareil aux sorties piscine, j'y repense, on a quand même pas mal de racisme, c'est-à-dire qu'on va en piscine, on est quand même, il y a 15 jeunes et il y a 3-4 bénévoles qui encadrent, et chaque sortie c'est très récurrent, il y a des gens qui vont venir nous voir à la fin et qui vont nous dire est-ce que vous revenez la semaine prochaine, vous étiez un groupe très bruyant, est-ce que vous revenez, alors que sincèrement on ne gêne pas dans le bassin, c'est des jeunes qui s'amusent, mais il y a rien d'anormal, il y a pas mal de regards déplacés, il y a un bête nageur qui une fois a fait une réflexion hyper déplacée en disant que de toute façon, je le cite, hein, eux savaient les gérer parce qu'il avait fait la légion étrangère, donc ce qui était très compliqué à entendre. Et pareil, en vrai, sur les moments, on sait pas trop comment réagir parce que le but c'est quand même qu'ils puissent finir leur sortie piscine et que parfois ils le disent pas directement à eux mais plutôt à nous, ce qui est encore pire.
Ouais. J'ai une dernière question pour vous, est-ce que vous comptez faire perdurer votre engagement dans votre vie professionnelle plus tard, après vos études?
Alors moi, pour ma part, oui. J'aime beaucoup cet aspect d'aider. Déjà, médecine, on a dit qu'on aidait les autres, c'est certes. Mais aussi, de par les situations compliquées, des gens comme ça qui, pour la plupart, n'ont pas choisi de quitter leur pays, mais ont été plutôt dans l'obligation de le faire. Et je pense que c'est aussi la différence à entendre et la différence à bien prendre en compte. Donc moi, c'est vrai que l'humanitaire, en général, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup et je pense que je vais continuer à faire ces projets.
Moi, je trouve ça très important de s'engager en local comme avec pêle-mêle. Et du coup, j'espère que dans ma vie professionnelle future, je serai un médecin assez engagé et que j'aurai des engagements en dehors de ça aussi.
Bon, je te le souhaite. Merci Aline et Nora d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été avec nous pour cet épisode de l'étudiant attendu. Merci aussi pour votre engagement, évidemment. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de l'association pêle-mêle pour suivre ses actions et pour lui donner de la force. Et n'hésitez pas bien sûr à aller faire un don si vous en avez les moyens. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter L'étudiant attendu deux fois par semaine sur la fréquence 94 ou sur le site campusfm.net et à nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci à François Berchenko à la réalisation. C'était Lou au micro de Campus FM. Bon après-midi à tous et à toutes. À plus.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.